There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Le dernier point que j'aimerais aborder dans cet épisode pour cette dernière partie, et pas des moindres, c'est le fait d'avoir les mêmes droits. Aujourd'hui, en tant que membre de la communauté LGBTQIA+, on n'a factuellement pas les mêmes droits qu'une personne cisgenre ou hétéro.
Vous écoutez
J'aimerais à ce sujet vous parler du rapport Health for LGBTI de la Commission européenne de 2017 qui met en lumière des inégalités systémiques et les causes structurelles de ces inégalités, qu'elles soient sociales ou sanitaires, vis-à-vis des personnes de la communauté dans l'Union européenne. Ce rapport démontre la difficulté de l'accès aux soins et les conséquences parfois dramatiques telles que les IST, le surpoids, de nombreux cas de dépression, l'anxiété, des tentatives ou des idées suicidaires ou encore des dépendances à des substances telles que l'alcool, le tabac et autres psychotropes. Pour vous donner quelques chiffres, environ 60% des personnes intersexes ont déjà tenté de mettre fin à leur jour, contre 3% de la population cis-hétéro. Bien que les personnes de la communauté soient évidemment des citoyens et des humains comme les autres, il serait totalement malhonnête de ne pas mettre en place des mesures spécifiques, tant les inégalités sont fortes et lourdes de conséquences. Il existe des spécificités sociales et sanitaires qu'il faudra reconnaître. Et c'est cette reconnaissance des droits des LGBTQIA+, en matière de santé notamment, qui sera un signal de normalisation et un instrument pour la lutte. Dans de nombreux pays, encore aujourd'hui, les personnes non-hétéros n'ont pas le droit de se dire oui, de s'unir et de se déclarer époux et épouse. Aux alentours de la mi-mars, celle que l'on appelle la Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican publiait une note qui ne laissait aucun doute possible. Elle réaffirmait par ce biais sa position vis-à-vis de l'homosexualité, qu'elle considère comme un péché et l'interdiction absolue de proclamer un mariage homosexuel dans l'enceinte de l'Église. Il existe pourtant certains prêtres catholiques allemands qui ont décidé de bénir ces mariages homosexuels. Ils avaient alors appelé à la désobéissance dans un acte de rébellion face au Vatican et ont choisi les réseaux sociaux comme plateforme de diffusion de leurs messages. On a également pu observer des drapeaux arc-en-ciel sur les façades de nombreuses églises en Allemagne, mais aussi en Autriche, un pays à la forte culture et tradition catholique. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'actuellement se joue le destin de nombreuses personnes, puisque d'ici le 29 juin prochain, l'Assemblée doit examiner une ultime fois le projet de la loi bioéthique et sa mesure phare évidemment, celle dont on parle le plus, la PMA, ouverte à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple lesbien par exemple. Mais alors qu'est-ce que c'est que la PMA exactement? Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, et c'est normal, donc j'aimerais vous l'expliquer. PMA, c'est le sigle de procréation médicalement assistée. Il s'agit en fait de l'ensemble des pratiques d'aide à la procréation, telles que la fécondation in vitro, l'insémination artificielle ou encore le principe de gestation pour autrui, mais aussi dans une moindre mesure, les méthodes d'analyse des périodes de fécondité optimales. Le 3 février dernier, le Sénat s'était prononcé contre cette proposition de PMA ouverte à toutes les femmes, avec 132 voix contre et 48 voix pour. Cette décision va pourtant à l'encontre de celle de l'Assemblée nationale, qui le 29 juillet 2020 s'était placée en faveur de cette proposition de loi. Actuellement, la PMA est ouverte aux couples hétérosexuels mariés, vivant ensemble depuis minimum 2 ans et ou en âge légal d'avoir des enfants. L'année 2015 a vu naître plus de 25 000 grossesses par PMA, soit environ 3% des naissances. Les personnes éligibles doivent répondre à certaines exigences, telles que le couple ou l'un des membres du couple ayant une stérilité pathologique médicalement constatée par un bilan d'infertilité, et ou l'un des membres du couple qui est porteur d'une maladie grave potentiellement transmissible à l'enfant ou au conjoint. Alors je n'ai pas pu vous mettre toutes les informations que j'avais au sujet de la PMA, parce qu'il faut savoir que c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, qui est discuté en politique depuis de nombreuses années, ça remonte même à l'époque de Hollande. Donc je vous aurais mis quelques articles dans la description, comme chaque description de tous les podcasts de cette émission, si jamais vous avez envie tout simplement d'approfondir, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, peut-être de connaître aussi l'historique de cette question de la PMA pour toutes, qui n'est absolument pas nouvelle, qui n'est absolument pas récente. Donc c'est vraiment quelque chose qui se joue, qui est très important, et on aura évidemment la réponse mardi prochain. En attendant la conclusion prochaine de l'Assemblée, il est important d'expliquer exactement ce que signifie l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. En premier lieu, il s'agit évidemment de laisser la possibilité aux couples de femmes et aux femmes seules d'avoir un enfant par le biais de l'insémination artificielle avec donneur anonyme ou par FIV avec un don anonyme de spermatozoïdes. Mais alors pourquoi revendiquer cette ouverture pour toutes ? Tout d'abord pour une question d'égalité. Les couples hétérosexuels ont le droit d'avoir recours à cette méthode pour procréer et pour devenir parents, qu'ils soient mariés ou non, alors que les couples homosexuels n'y ont actuellement pas le droit. La loi pour le mariage pour tous avait ouvert un éventail de possibilités aux couples non hétéros, notamment la possibilité d'adopter un enfant. Mais alors dans ce cas, pourquoi empêcher l'accès à la PMA ? Pourquoi certains couples n'auraient pas les mêmes droits ? Pourquoi a-t-on le droit d'adopter mais pas de procréer avec l'aide de la médecine ? Une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que interdire n'empêchera pas des couples désireux d'avoir un enfant de se rendre à l'étranger pour avoir recours à la PMA dans certains pays frontaliers, tels que la Belgique ou l'Espagne par exemple. SOS Homophobie considère qu'il s'agit, je les cite, d'une hypocrisie de la part de l'État de ne pas permettre de concevoir ses enfants en France. Ces procédures ont un réel coût financier, sanitaire et humain pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, évidemment, cette interdiction génère des inégalités puisque seuls les couples ayant le plus de moyens pourront avoir accès à la PMA à l'étranger. Ensuite, les femmes qui auront recours à la PMA à l'étranger devront jongler entre deux pays avec un suivi médical parfois très compliqué. Elles devront faire face aux médecins et à leurs convictions personnelles ou encore aux disparités d'accès au corps médical. Et enfin, le manque de législation entraîne évidemment un sentiment fort de rejet dans son propre pays. Actuellement, on estime entre 50 000 et 300 000 enfants qui vivraient dans des familles homoparentales en France. Une question légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que les opposants à la PMA pour toutes sont homophobes ? L'homophobie est, selon SOS Homophobie, je cite, « la haine et le rejet fondés sur l'orientation sexuelle ou l'identité d'une personne ou d'un groupe de personnes, et elle se manifeste notamment par l'inégalité des droits entre personnes hétérosexuelles et homosexuelles ». Donc selon cette définition, l'interdiction de la PMA aux couples non hétéros est une décision homophobe et plus particulièrement lesbophobe. Il n'y a aucune raison que les couples lesbiens n'aient pas la possibilité d'avoir recours à la PMA pour procréer dans les mêmes conditions que celles actuellement en place pour les couples hétéros. Alors non, le droit d'avoir un enfant n'existe pas, mais cela dit, il existe le droit de choisir et surtout celui d'avoir le choix. Une autre question soulevée par SOS Homophobie, c'est la fameuse « les enfants doivent-ils avoir un père et une mère ?» Ça, c'est une réelle question à laquelle il est important de répondre. Évidemment, les enfants n'ont pas l'obligation d'avoir un père et une mère. Ils ont le droit, cela dit, d'avoir un foyer stable, sécurisant et sain, des parents aimants et désireux de les avoir dans leur vie. Qu'en est-il des femmes et des hommes élevant leurs enfants seuls ? Si on devait obligatoirement donner un père et une mère à un enfant, il faudrait supprimer la possibilité d'adopter à une personne célibataire ou même supprimer la possibilité d'accoucher sous X. Les référents peuvent être d'autres personnes que les parents. Dans le cas d'un couple homosexuel, l'ensemble de l'entourage peut apporter un modèle du genre opposé à celui des parents. Le plus important pour un enfant n'est pas d'avoir un papa et une maman avec des rôles genrés, sexistes et binaires. Le plus important, c'est surtout d'évoluer dans une famille protectrice, aimante, ayant toutes les ressources nécessaires pour son éducation et pour son bien-être. Il n'y a aucune question de genre ou de sexe là-dedans. À ce jour, plus de 800 articles scientifiques ont été écrits au sujet de l'homoparentalité depuis 1972. 10% d'entre eux étaient au sujet du développement de l'enfant dans les familles homoparentales, et ces études ne montrent aucune différence entre les enfants issus de familles hétérosexuelles et les enfants issus de familles homosexuelles. Il n'y a évidemment aucun impact sur l'orientation sexuelle de ces enfants, sinon tous les enfants hétéros seraient hétéros, c'est logique. Ce dont peuvent souffrir les enfants en revanche, c'est de la stigmatisation que vivent leurs parents dans la société, que ce soit à l'école ou partout ailleurs. C'est bien l'homophobie qui est cruelle et non pas le fait de grandir avec deux parents du même genre. Je vous laisserai encore une fois en description ma source pour cette partie de l'épisode si vous souhaitez avoir plus d'informations, notamment sur la reconnaissance et la protection légale des enfants qui sont nés sous PMA, par exemple. Bénédicte Blanchet de l'association Maman Solo déclarait: c'est une superbe leçon de patriarcat de la part d'hommes non intimement concernés par le sujet, manifestement non informés et attachés à une vision traditionnaliste, plus du tout actuelle, de la famille, lorsqu'elle parlait justement de cette décision de ne pas autoriser la PMA pour toutes les femmes. Pour conclure ce sujet sur la PMA, je vais vous lire un extrait d'une tribune qui a été publiée dans le Journal du Dimanche et qui a été écrite par Elisabeth Moreno et Caroline Fourest, qui s'appelle « La PMA pour toutes est un acte d'égalité ». La situation actuelle conduit de trop nombreuses femmes célibataires ou en couple lesbien à renoncer à un désir d'enfant ou à prendre des risques sanitaires, juridiques et psychologiques en réalisant une PMA sans encadrement médical ou à l'étranger, instaurant ainsi une discrimination financière. La PMA constitue pourtant une pratique désormais bien ancrée dans notre pays. Autorisée pour les couples hétérosexuels depuis 1982, elle permet aujourd'hui à environ un enfant sur 30 de voir le jour. Néanmoins, fondée à l'origine sur un principe d'égalité à donner la vie, elle s'est muée en discrimination. Le premier projet de loi bioéthique voté en 1994 a en effet privé les couples lesbiens et les femmes célibataires, gravant dans le marbre de la loi une inégalité. Le 24 juillet 2019, un nouveau projet de loi relatif à la bioéthique prévoyait de rétablir l'égalité devant la vie en élargissant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Si au cours de ces deux lectures, l'Assemblée nationale en a sanctuarisé la mesure phare, le Sénat, dans un réflexe patriarcal pavlovien, l'a détricoté et, surtout, en a supprimé l'article 1 autorisant l'accès à la PMA à toutes les femmes. Une triste leçon de conservatisme révélatrice d'un impensé ou d'une cécité. La diversification du modèle familial dit traditionnel opéré ces dernières décennies, à laquelle se conjugue la dissolution du lien entre biologique et généalogique. En d'autres termes, c'est l'évolution de notre société que les sénateurs se refusent de voir et d'embrasser. Acte d'égalité, l'accès de la PMA à toutes les femmes est aussi un acte de liberté et de fraternité. De liberté parce qu'il permet à toutes les femmes de décider de leur maternité. De fraternité parce que ce droit nouveau n'en ôte aucun à personne et qu'aujourd'hui 2/3 des Français s'y déclarent favorables. Autrement dit, le combat pour l'accès à la PMA pour toutes est un combat éminemment républicain. Comment se sentir légitime et libre d'être aimé et d'aimer qui on veut lorsque le simple fait d'exister dans l'espace public nous oppose à un danger? En 2017, 51% des agents de la fonction publique considéraient que faire son coming out aux personnes de son environnement professionnel contribuait à mettre mal à l'aise ses collègues. Une personne sur trois pense que cela pouvait même avoir un impact négatif sur sa carrière professionnelle. Quant à eux, 20% des sondés LGBT français affirmaient avoir déjà été victimes de discrimination à l'embauche ou dans leur emploi au cours de l'année précédente. J'ai donc demandé à Chelsea, Dalila, Maïté, Grazi, Sacha, Marine et Moyashi si il et elle avaient déjà eu peur de s'afficher dans un lieu public ou de se revendiquer de la communauté LGBTQI+. Est-ce qu'il et elle ont déjà adopté des stratégies d'évitement face aux potentielles agressions homophobes dans les lieux publics?
Donc,
non, à part juste quand on est dans la 93 et qu'on passe à la cité, on va pas se tenir la main et se rouler les belles.
Voilà.
Mais sinon.
Et encore, c'était vraiment à l'époque où on était jeunes, parce que ouais, je pense que maintenant, je me poserais même pas la question, quoi. Genre, si j'ai envie de lui faire un bisou en pleine cité, je lui ferais. Mais à l'époque, quand on était plus jeunes, on avait un peu plus. Je sais pas, on avait un peu plus peur, je pense, de tomber sur mon grand frère, de tomber. Tu vois, c'était plus des trucs comme ça, en fait. Plus par rapport à ma famille, aux gens qui connaissent. En cité, tout le monde se connaît. Donc, ouais, si y en a un qui me voit avec Chelsea en train de l'embrasser, ça va se savoir. C'est plus pour ce côté-là que pour le côté agression.
Et encore, c'est vraiment au début parce que, très honnêtement, enfin, c'est comme moi, par rapport à mon style vestimentaire, tu vois, je me suis jamais mis de pression de dire non, faut pas que j'ai un style assez.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Masculine.
Masculine, du coup. Enfin, non.
On n'a jamais vraiment été agressé ou victimisé du fait de notre orientation, mais alors pas du tout. Mmh. Et je pense que le fait d'avoir été en banlieue, justement, ça nous a beaucoup aidé. Hein.
Mmh. Ça nous a vraiment parlé.
Parce que tu peux pas nous parler comme tu parlerais à quelqu'un. Franchement, hein, je le vois vraiment comme ça, comme tu parlerais à quelqu'un de Paris, par exemple, enfin en tout cas des quartiers jolis, bobos, que à nous, parce que nous, on se laissera pas faire sous prétexte que tu vas nous dire celle lesbienne, c'est pas ça qui va nous faire pleurer. Hein.
Ouais.
On va dire, ok, oui, t'as totalement raison. Alors, ensuite, tu vois, genre. Ouais, on le vit bien en fait et on a la chance, je pense, parce qu'on nous a raconté aussi pas mal d'anecdotes de personnes qui se sont fait agresser et c'est incroyable de se dire que ça existe encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon. Et nous, non, ça nous est pas arrivé. Mais je pense que c'est parce qu'on décrédibilise à la mort en fait. On se sent tellement bien que les gens se sentent bien aussi, je pense, tu vois.
Ouais, carrément.
Il y a ce côté-là aussi. Quand t'as peur d'afficher quelque chose et qu'on te dit tu serais pas lesbienne et que tu te caches et que tu montres que c'est un problème.
C'est ça.
C'est là que les gens t'écrasent. Ouais, ouais.
Notamment dans le monde du travail, malheureusement, y a des homophobes, comme il y a des racistes partout, tu vois. Donc,
Moi, j'ai un petit tips pour le taf.
Vas-y.
En gros, t'es pas obligé de raconter ta vie, mais que tu sois hétéro ou pas. Hein.
C'est ça.
Donc, du coup, tu racontes pas ta vie, voilà. Ouais. Tu fais ta période d'essai tranquillement.
Et après,
si on te pose la question, tu y réponds tout à fait normalement. Genre, c'est pas, t'as un copain, tu dis oui, une copine, ou tu vois, quelque chose comme ça, parce que ça m'est déjà arrivé. Et
Pas se mettre la pression en mode ok, il faut que je lui dise.
Oui, non, voilà, c'est comme fait. J'ai dû déclarer Chelsea parce qu'on est paxé et j'avais marqué que c'était une femme et on m'a posé la question.
D'accord.
Tu t'es pas trompée? Ah non.
Alors,
ah non, oui, c'est bien,
c'est
bien une femme. Donc du coup, voilà, une fois que c'est rentré, après c'est eux qui se sentent gênés
c'est
en
ça,
fait.
Ouais, carrément.
Il faut faire ce truc-là. En fait, le conseil.
Avoir,
et Chelsea, toi, t'étais très forte pour ça. En gros, pour gêner les gens à sa place. Ah ouais, elle avait ce truc en mode je sais pas, on va lui poser la question, on va dire oui, une fille. Ah non, mais t'inquiète, hein, tout va bien. Et la personne se sentait gênée, en fait.
Qui sont gênées, en
et
fait.
C'est ça qu'il faut faire, c'est genre... T'es bizarre, oui, j'aime les femmes, t'es chelou. Souvent,
aller me chercher, je te présente ma copine.
Ils sont comme ça, ils bégayent et tout.
Je connais pas ta femme.
Donc ouais, en fait, faut le vivre tout simplement, normalement. Et c'est eux qui vont se sentir mal, en fait, parce qu'il y a rien. Et ils vont se sentir mal d'avoir pensé qu'il y avait un truc bizarre.
C'est ça.
Alors, moi, je n'aime pas forcément m'afficher quand je suis à l'extérieur, parce que je sais que... Malgré voilà, notre génération et la société actuelle, ben, je sais que c'est pas encore bien vu. Ouais, que c'est pas encore bien vu. Et donc, du coup, c'est pour ça que je préfère garder tout ça pour moi. Après, je suis fière de ce que je suis, mais j'aime pas me montrer. Déjà, moi-même, j'aime pas me montrer par rapport aux gens, mais encore moins notre couple. Quoi.
Moi, par contre, c'est vrai que moi, j'aime bien pas me montrer, mais. Faire une balade en amoureuse, enfin Oui, avoir des petites attentions. J'ai pas honte du tout. Après, voilà, il y a le respect. Je vais pas être là à la bécoter. Enfin, j'ai un minimum de respect envers les autres parce que, oui, comme elle a dit, ils sont pas encore tous ouverts d'esprit. Et puis, c'est pas encore voilà. Accepté par tout le monde, quoi.
C'est ça. Après, oui, effectivement. Par exemple, si on voit qu'il y a des groupes, on va pas forcément se tenir la main ou se faire des bisous, quoi. Parce que justement, on sait qu'on peut se faire agresser pour rien, hein, en vrai, ouais. Mais voilà.
C'est vrai, ça peut très vite dégénérer parce qu'ils sont pas d'accord, pas ouverts. Et...
C'est ça, surtout des mecs, quoi. Ils voient deux filles, ça y est, ils se sentent plus. Donc du coup, ils vont vouloir faire les lourdeaux et ensuite, ça peut, voilà, comme elle a dit, ça peut très vite dégénérer.
Oui, en tant que personne LGBTQ+, il m'est déjà arrivé d'avoir peur lors d'événements, lors de fêtes, dans certains quartiers, dans certains endroits, dans certains lieux publics. Je ne sais pas si je peux parler de stratégie d'évitement. Je dirais que mon attitude face à ces moments-là a changé avec le temps. Au début, si je savais que voilà, le lieu ou l'événement me faisait peur, si je savais qu'il y avait un quelconque risque, alors j'essayais de me fondre le plus possible dans la masse cis-hétéro, notamment par le style vestimentaire. Aujourd'hui, je préfère tout simplement éviter ces lieux, ces endroits-là, et pouvoir rester moi-même 24 heures sur 24 sans subir de violence ou d'agression.
Alors, cette question, elle est pas évidente parce que, effectivement, la relation amoureuse que j'ai eue avec cette fille il y a quelques années, qui a duré quand même 3 ans, a été complètement bridée par mes parents. Et du coup, je me suis énormément renfermée et bien sûr, j'ai caché cette relation aux yeux de quasiment tout le monde pendant quasiment 3 ans. Donc oui, j'ai connu cette peur de m'afficher dans un lieu public parce que même s'il était hors de question de s'embrasser en public, on peut pas se cacher. Enfin, l'amour, ça se porte sur soi, ça se voit, et des fois c'était plus fort que nous dans notre façon de nous regarder, de nous prendre la main ou de nous caresser le bras. Enfin voilà. Des petites attentions anodines qui du coup aux yeux de mes parents étaient, enfin ça leur sautait aux yeux et de suite on se prenait une déferlante, pas devant tout le monde évidemment, mais du coup ça nous a énormément bridé, on en montrait le moins possible, mais j'ai connu cette peur à travers les yeux de mes parents, quoi. Donc même si du coup j'ai pas connu cette peur de l'agression, de purement d'homophobie sociétale, je l'ai connu à travers mes parents et c'était pas forcément mieux. C'était aussi difficile. Voilà, je l'ai connu autrement, mais c'est vrai que étant donné qu'on ne s'est pas montré aux yeux de tout le monde, du grand public entre guillemets, j'ai pas connu cette peur parce qu'en fait j'étais déjà chapeautée par mes parents qui me disaient ce que j'avais le droit de faire et de ne pas faire avec cette fille.
Et pour cette dernière question, je voudrais juste dire que encore une fois, j'ai beaucoup de chance et j'ai jamais eu vraiment de problème par rapport à ma bisexualité. Vraiment, je touche du bois, hein. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, donc pour cette question, ma réponse est tout simplement non. Et je suis vraiment désolée à toutes les personnes à qui ça arrive. Et courage et gros soutien, on est avec vous.
En tant que personne LGBTQIA+, il faut avoir conscience que l'on risque fortement d'être la cible d'agressions homophobes ou transphobes. Pour vous donner quelques chiffres, 53% des LGBT ont déjà été confrontés à au moins une forme d'agression homophobe et parmi ces personnes, on retrouve 65% d'homosexuels et 45% de bisexuels. Ces agressions sont loin d'être des cas isolés, puisque lorsqu'on parle d'agressions sexuelles, les chiffres montrent qu'un quart des LGBT en ont déjà subi. Parmi ces personnes, 17% ont déjà été victimes de violences physiques. Le cas des personnes homosexuelles, en particulier celui des hommes en milieu dit « populaire », est particulièrement préoccupant, puisqu'on dénombre 39% d'entre eux qui ont déjà été victimes d'agressions physiques. Tout en gardant en tête le fait que nous n'avons très certainement qu'une partie des cas d'agression, beaucoup d'entre elles étant gardées sous silence. Actuellement, les lieux les moins sécurisés et les moins sécurisants pour la communauté sont les établissements scolaires et les lieux publics devant le milieu professionnel et le web. Ce sont dans ces lieux, que l'on fréquente toutes et tous, que les personnes de la communauté seront le plus victimes d'insultes, de menaces et ou d'agressions. Plus frappant encore, 60% des personnes sondées de la communauté pour cette enquête menée par la Fondation Jean Jaurès déclarent avoir déjà évité de se tenir la main ou d'embrasser une personne du même genre en public. Aujourd'hui, faire « gay » entre guillemets est un critère aggravant lorsque l'on parle d'agression homophobe. Le physique et l'attitude sont de réels facteurs de risque pour une personne LGBT dans l'espace public, parce que les personnes hors normes, et surtout hors des normes hétérosexuelles et cisgenres, sont les plus exposées à la violence et à la haine. 22% des personnes homosexuelles déclarent se sentir particulièrement discriminées par les forces de l'ordre. Tous ces risques forcent les personnes à adopter des stratégies d'évitement pour ne pas risquer l'agression quelle qu'elle soit. Ne pas s'embrasser, ne pas se tenir la main, éviter certaines rues ou certains quartiers, voire même parfois ne pas avoir de relations du tout, ou en tout cas en public. 33% des personnes évitent de s'afficher devant leurs voisins et 28% devant leurs proches. Selon le document de la Fondation Jean Jaurès, toutes ces données montrent que, je cite, « derrière l'homophobie, il y a souvent une injonction sociale au respect des normes de genre ». Les actes homophobes touchant en premier lieu les LGBT dont l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle est la plus visible. Il parle notamment de ces physiques androgynes, des hommes minces ou des femmes aux cheveux courts, par exemple. La Fondation dit, je cite, « L'homophobie se rapproche donc de la transphobie et plus largement de la stigmatisation historique des déviances de genre ». Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet. Je fais moi-même partie de la communauté LGBTQIA+, puisque comme vous l'aurez compris en écoutant ces différents épisodes, je suis à la fois biromantique et bisexuelle. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette partie de mon identité pendant des années. D'abord dans le déni, puis dans la honte. J'essaye d'aller petit à petit vers l'acceptation de moi-même, et ça passe par une réelle déconstruction de mes propres peurs et de mes propres préjugés. Nous sommes toutes et tous baignés dans une société aux normes incompatibles avec une autre sexualité que l'hétérosexualité et une autre identité de genre que celle d'être cisgenre. À ce jour, des personnes qui sont très proches de moi ne savent pas que je suis qui je suis, à savoir une personne capable d'aimer sans distinction de genre ou de sexe. J'ai encore peur des réactions que cette annonce pourrait provoquer, parce que oui, c'est encore une annonce, c'est encore considéré parfois comme un aveu, quelque chose de presque honteux ou anormal qu'il faudrait déclarer au monde pour être plus honnête avec les personnes qui nous entourent. J'espère du fond du cœur que cet épisode aura ouvert les yeux aux personnes qui l'auront écouté. J'espère à mon échelle avoir contribué à déconstruire certains schémas que la société nous a imposés et avoir contribué à ce que toutes les identités amoureuses, sexuelles et de genre soient perçues comme ce qu'elles sont, normales. J'aimerais adresser un énorme merci à l'ensemble des personnes qui ont contribué à rendre cet épisode possible, à savoir Chelsea et Dalila qui ont pris du temps dans leur emploi du temps chargé pour répondre à mes questions. Merci à vous deux les filles, vous êtes merveilleuses. Merci aussi à Maïté et Grazi qui ont répondu présentes lorsque je leur ai demandé si elles voulaient bien partager leur expérience avec moi. Merci d'avoir pris ce temps et merci d'avoir été aussi investies. Merci du fond du cœur également à Marine et Moyashi qui ont répondu à mon appel à témoins et qui m'ont partagé leurs histoires par mail avant de m'envoyer leurs témoignages vocaux sans sans vous, cet épisode ne serait clairement pas le même. Et enfin, un énorme merci à toi, Sacha. Comme je vous l'ai dit au début, Sacha, c'est un camarade de classe que j'ai pu découvrir encore plus avec cet épisode. Il a répondu présent à ma demande, il a été disponible et d'une sincérité remarquable. J'avais à cœur de pouvoir représenter un maximum d'identité avec cet épisode, et sans lui, il n'aurait clairement pas été complet. Donc merci. Merci également à Adèle qui avait déjà participé à une interview et dont j'ai repris la fameuse analogie du gâteau pour cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Vos écoutes ont une vraie valeur et merci à toutes les personnes qui n'ont pas témoigné mais qui m'ont apporté leur soutien pour cet épisode. Elles se reconnaîtront. Vous aurez l'ensemble de mes sources et même plus dans les descriptions de toutes les différentes parties de ce long épisode dédié à la communauté LGBTQIA+. Sachez que j'ai préparé cet épisode pendant de longues semaines, donc si vous l'avez apprécié, s'il vous plaît, soutenez-le pour qu'il puisse se propager et être écouté par le plus grand nombre. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à identifier le podcast sur Instagram. De toute façon, je répondrai avec plaisir à toutes vos stories et je vous repartagerai évidemment. Vous pouvez aussi avec plaisir laisser des commentaires, que ce soit sur Apple Podcast, sur Instagram de nouveau, ou même sur YouTube. Et une nouvelle fois, merci pour votre écoute et à très vite dans un nouvel épisode de Bouteille à la mer. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je t'invite dès aujourd'hui à soutenir Bouteille à la mer en mettant 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Tu peux aussi venir t'abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram de Bouteille à la mer que tu retrouveras en description. Pour me donner des idées de sujets à aborder, témoigner toi-même sur une thématique en particulier ou me contacter pour partager ton témoignage dans une interview sur ton parcours, sur tes combats, sur ton vécu, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteillealamer-podcast@outlook.fr. Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.